Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Témoins Oculaires en direct sur Radio Galère 88.4 et DAB+, et diffusé aussi sur les internets sur radiogalère.org. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce début d'année 2020, nous vous souhaitons nos meilleurs voeux, bonne année, bonne santé, et nous sommes encore une fois heureux de pouvoir présenter cette émission grâce à Radio Galère et leur accueil. 2020 donc qui est une année qui sera encore une fois riche, je l'espère, en événements et en rendez-vous cinématographiques, avec des films assez attendus comme 1917 de Sam Mendes, Bad Boys for Life, Pinocchio de Matteo Garrone aussi, et le retour bien évidemment de réalisateurs majeurs tels que Christopher Nolan, Reed Morano, Andy Serkis aussi qui est toujours à la réalisation et qui réalise toujours des films. Pour ceux qui le connaissent un peu, c'était celui de l'acteur qui jouait le Gollum. Le film de Denis Villeneuve, Dune, qui va sortir aussi dans l'année 2020. Et puis aussi, on a des rendez-vous avec Steven Spielberg. Et bien d'autres encore que l'on pourra examiner dans Témoins Oculaires au fur et à mesure des semaines qui passent. Mais ce soir, pour mieux commencer l'année, nous avons fait le choix donc de revenir sur ces 10 dernières années, justement, en 10 films, avec des réalisateurs qui, pour nous, ont beaucoup apporté au cinéma. Que ce soit des films de genre ou des films d'auteur, chaque créateur, au travers de leurs films, ont annoncé des formes nouvelles de narration, d'écriture, de mise en scène et ont parfois aussi jugé bon de revenir aux fondamentaux de la création cinématographique. L'an 10, c'était beau et terrible à la fois. Beau parce que le cinéma était au rendez-vous de l'histoire et qu'il s'est renouvelé. Terrible car l'histoire, elle, plonge impitoyablement sans que nous sachions ce qui pourra venir vraiment la freiner. Au début de la décennie, il était souvent question de fin du monde et de terribles constats et questionnements sur ce qui pourrait encore nous sauver, nous rassembler et nous unir. Là où une partie du monde sombre lentement dans le chaos, une autre le sauve continuellement des menaces climatiques, terroristes et extraterrestres. Les super-héros et leurs super-pouvoirs n'ont transmis entre autres valeurs que celles de destruction toujours plus sauvage et puissante, en diffusant massivement une bouillie visuelle et narrative qui rapporte un max. 27 films en 10 ans, par exemple, pour les studios Marvel, 17 milliards de recettes. C'est quand même quelque chose qui est très efficace, en tout cas, sur cette dernière décennie. Les modes de consommation des films ont changé. La VOD est courante aujourd'hui. Là où j'aime encore étoffer ma DVD tech, je m'aperçois avec un certain malaise qu'aujourd'hui, mon habitude est de regarder ce qui se trouve dans les catalogues de mon application cinéma qui est sur ma tablette. Les cinémas, d'ailleurs, redoublent d'efforts pour attirer les spectateurs dans les salles à un point où la métamorphose nous laisse croire que nous sommes dans un centre de loisirs. Cela pourrait être logique si l'on considère que la salle et les films sont progressivement vidés de leur contenu et que le cinéma est par nature une attraction foraine. Mais mon attachement au cinéma est romantique. J'attends toujours que l'on me propose l'expression d'une vision du monde et de l'homme. On a pu voir au cours de ces dernières années justement la création d'un nouvel espace combinant fond et forme, gros budget et parti pris artistique. Je suis certainement devenu vieux jeu. À mon tour, j'ai aussi 10 années de plus au compteur. Mais ce n'est pas une lutte de génération, c'est la destruction d'un art au profit du motion picture, la disparition de ce qu'on est encore, de ce qu'est le rayonnement magique de celles et ceux qui ont une vision à partager au plus grand nombre. À l'aube d'un nouveau siècle et d'un monde gagné par les luttes et les révoltes humanitaires et sociales, j'espère intimement que mon édito de ce soir subsistera comme une tendre baliverne. En tout cas, les années 2020 nous proposent encore beaucoup de choses, que ce soit au niveau du cinéma et entre autres choses sur la création artistique. Et j'espère qu'en tout cas, tout cela nous permettra de pouvoir avancer dans le bon sens tous ensemble. En tout cas, ce soir, il y a des modifications et je vous remercie d'être à l'écoute avec Témoins Oculaires. Ce soir, donc, nous accueillons Guilin qui vient partager ce moment d'émission avec nous. Guilin qui est donc...
Tout à fait Thomas, moi je suis comédien et réalisateur, enfin, j'ai fait des études de cinéma à Aix-Marseille 3 et j'ai fait un mémoire de recherche sur le cinéma de Steven Spielberg parce que c'est mon réalisateur préféré. Voilà.
D'accord.
Et sinon je suis comédien professionnel et passionné de cinéma, plutôt de cinéma américain des années 80 jusqu'à 2000 en gros, enfin... Jusqu'à 2010, avec tout ce qui
le
arrive.
Mais
le cinéma de genre américain, c'est quand même une grosse passion. Ouais. Ouais.
John McTiernan, tout
John
ça.
John McTiernan, les Wachowski, Spielberg, Joe Dante, Zemeckis, Shyamalan, quand il est bon.
Tous les films avec lesquels on a grandi. S'il y avait un film peut-être sur de Steven Spielberg qui pour toi est peut-être un film que tu regardes, un peu ta Madeleine de Proust ou ton film de chevet de Spielberg, ce serait quoi?
Ah, Madeleine de Proust, ça serait AI, intelligence artificielle.
Ouais.
Parce que je trouve que c'est assez énorme. En plus, il a été très, très mal accueilli par la critique et par une partie du public aussi. Et c'est vraiment un film qui mérite une revision, voire une deuxième vision, voire plusieurs visions, parce qu'il est incroyablement riche. Et très actuel en plus, très beaucoup de thématiques qui ont un essor maintenant. Ouais. Qui ont
Pour le coup, ouais, c'est vrai que là, on est en plein dedans dans l'intelligence artificielle, les algorithmes et compagnie.
Pas que, puis sur la société aussi, vraiment.
Ouais. Voilà quoi. Et on est aussi accompagné ce soir de Daniel. Daniel, bonsoir aussi.
Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Alors, pour une petite présentation rapide, moi j'ai passé un master en cinéma aussi à Aix-en-Provence sur Sidney Lumet, donc moi aussi je suis assez passionné de cinéma américain, et j'ai travaillé pendant des années dans différentes salles de cinéma de la région, un peu tous les postes, et aujourd'hui je suis assistant mise en scène voilà, pour le cinéma et la télévision, et toujours passionné de cinéma et cinéphile. J'ai eu, donc sur cette décennie 2010-2019, j'ai beaucoup travaillé dans les salles, à la programmation, donc j'ai vu beaucoup de films.
Ouais, t'as dû en avoir un paquet. Ouais.
Et en faisant la rétrospective, je me suis rendu compte que j'ai vu beaucoup de choses, et beaucoup de bonnes choses. On a eu quand même une belle décennie, donc j'espère qu'on va pouvoir tout dire sur ce qui nous a plu.
D'accord.
Enfin, merci.
Eh ben, pour le moment, on va faire une petite page de musique avec un morceau qui ça va arriver en fait dans notre analyse de cet après-midi. Alors de cette soirée, pardon. Juste pour vous dire donc la thématique de ce soir, c'est une thématique en fait qui est axée, comme je vous le disais, sur la rétrospective des 10 dernières années où on a fait un petit top 10 ensemble. On va vous en parler en deux parties qui seront toujours entrecoupées de musique. Et pour le coup, les musiques qui ressortaient un peu de cette dixième année par rapport à notre top 10, c'était des musiques qu'on retrouve dans Ready Player One justement de Spielberg. Je crois que ça te fait plaisir un peu.
Oui.
Tu kiffes un peu. Donc on va lancer un morceau tout de suite qui est apparu dans Ready Player One. On se retrouve tout de suite après.
You're losing, you're losing, you're losing your vitamin C.
On est de retour sur Radio Galère 88.4 DAB+, et diffusé sur radiogalère.org dans l'émission Témoin Oculaire en compagnie de Guilin et de Daniel. Donc le morceau que nous venons d'écouter, c'était Vitamine C du groupe Can, qui apparaît donc, comme je vous le disais, dans Ready Player One de Steven Spielberg. Nous allons tout de suite passer justement à notre top 10. Alors le top 10, on l'a diffusé en 5 films. On va commencer peut-être par le numéro 1, parce que je pense qu'il est unanime sur les 10 dernières années.
Il y a Mad Max Fury Road.
Il y a des scientifiques et tout qui ont analysé le truc et tout ça, qu'on dit c'est quand même le film qui reste.
Scientifiquement, c'est une claque,
ça a été prouvé.
Donc Mad Max Fury Road, c'est un film de George Miller.
À qui on doit déjà dans le même style Happy Feet 2, puisque en fait c'est un prolongement des thématiques de Mad Max, donc à savoir les faux prophètes, la quête de soi, le parcours du héros de Joseph Campbell, vraiment un film initiatique dans son épure, la plus pure, j'ai envie de dire, quoi.
C'est un film épuré, ouais, c'est vrai.
Mais surtout, oui, film initiatique, mais ce qui a marqué quand même, ce qui en fait le film mythique de cette décennie, c'est que c'est un film d'action comme on n'avait jamais vu. Une course-poursuite qui dure 2 heures, qui débande jamais. Quand on est rentré dans la salle, pour me la jouer un peu, je l'ai vu à Cannes le mercredi matin à 8h à la première séance. Donc j'ai fait partie de la première vague de spectateurs qui ont vu le film. Et je veux dire, on était soufflés.
On a un privilégié.
On était soufflé par cette action. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on regarde le film, on ne respire pas pendant 45 minutes, on oublie de respirer.
Toute la première évasion, entre guillemets, de comment elle s'appelle déjà ?
Furiosa.
De Furiosa, ouais. Quand elle part avec son camion et tout, jusqu'à ce qu'il y ait l'accident avec Max et que la lampe s'éteigne. C'est au moment où t'as un ouf de la lumière, t'as un ouf du spectateur, quoi. Tu dis waouh.
Exactement. Et dans la salle, je l'ai vu 3 fois en salle.
La première partie s'arrête, quoi.
Et 3 fois, tu entends ça, tu entends les spectateurs qui d'un coup font ouf et soufflent.
Ouais, non, c'était.
Mais c'est un péplum, c'est un western, c'est un film qui était censé révolutionner le film d'action pour moi. Hein. Bon, il y a une lumière incroyable, tout en jaunâtre comme ça, en filtre jaune, le sépia, et en même temps c'est hyper lumineux. Et puis il y a le passage de témoin où finalement Max devient secondaire par rapport à Furiosa, qui a un charisme monstrueux, les personnages ont un charisme incroyable.
Il y a un beau parallèle qui est fait entre Furiosa et Max, puisque on découvre Max qui se fait donc attraper par les War Boys, et puis il est tatoué dans la nuque, et on lui grave sur le ventre, enfin sur le dos, d'honneur universel et tout ça. Et en fait, par juste un fondu au noir, une ouverture au noir, on reprend sur un autre personnage, donc qui a la nuque avec le tatouage, on se dit « Ah bah c'est Max en fait, puisqu'il est rasé et tout ça ». Et d'un coup, on découvre Furiosa, quoi. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, Miller a réussi à te représenter Max, te présenter Furiosa et les lier ensemble
un effet de montage.
Effet de montage et un effet de... d'image, quoi.
Mais c'est ça qui est vraiment intéressant au-delà, je trouve, moi, sur Fury Road, ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment en fait ce que le film raconte. C'est-à-dire que c'est vraiment le sujet, c'est quelque chose qui est très profond. Il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est un film qui mérite, je pense, aussi d'avoir plusieurs visionnages. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Enfin, j'avais écrit aussi un article et une analyse dessus. Et c'est vrai que vous pouvez retrouver cette analyse sur le site La Trappe Geek que j'avais fait. Je passe un coucou à Xavier et Vincent, qui avaient fait aussi l'illustration du...
Moi aussi, écoute, j'ai écrit une analyse aussi sur... Donc, quand on est dans la période de pub, alors je vais faire la pub pour mon petit blog. Alors, mon blog s'appelle Fantasy Doux, Fantasy comme de la fantasy avec un Y, et Doux comme Do It Yourself, .com. Et j'analyse en fait tous les films cinéma américains, et notamment j'avais analysé Mad Max Fury Road, et c'est vraiment le film qui m'a le plus choqué de l'année 2015, quoi. Donc du coup, j'en ai fait, je sais plus, 10 ou 15 pages à 4.
Je crois que c'est un film qui a marqué quand même tous les spectateurs. Dans tous les classements que tu retrouves sur cette année et même sur la décennie, tu retrouves quand même très vite Mad Max.
Il n'est pas forcément top 1 dans les choix des gens, mais il peut arriver top 4, top 5, ouais. Top 10 pour les plus...
Puis quand même, ce qui est bon signe, c'est que j'ai retrouvé les critiques et que Télérama lui avait mis une étoile.
Oui.
Je pense que ça prouve quand même que c'est un film.
Ça prouve que c'est un film à voir. Mais Télérama est une très bonne boussole à indiquer dessus. De moi.
Boussole inversée.
Ah ouais, mais chaque fois que je vois une étoile à Télérama, je sais que je vais adorer le film et ça ne loupe
mais
pas, quoi.
Au-delà des niveaux de lecture, moi je crois que, en plus, c'est un film où il ne faut pas rentrer dans une analyse très profonde.
Parce que tout est dit à l'image, en fait. Ouais, tout est juste à visionner.
Il y a une esthétique complètement hallucinatoire qui
te prend. Et à ressentir par le cœur et la tête.
Voilà.
Et
c'est un film à l'émotion, quoi.
Ouais, ouais.
C'est... Comment dire ? Il y a un côté montagne russe aussi dedans. Hein.
Oui.
Donc émotionnel.
Bah, rien que l'idée de partir d'un aller-retour, enfin d'un aller et de finir sur un retour, c'est culotté, quoi. Enfin,
ouais.
Et puis surtout, c'est un peu ce que dit aussi Ready Player One, qu'on verra après, mais c'est vraiment, on a atteint les limites du cinéma, et plutôt que de défricher quelque chose qu'on connaît pas encore, on va essayer de revenir en arrière et de changer les choses, c'est-à-dire d'arrêter de montrer des nanas à poil pour faire le male gaze, d'arrêter de montrer des méchants unilatérales et d'avoir des gens complexes comme peut l'être Immortan Joe, et pareil, de mettre un peu les femmes en avant avec Furiosa, puisqu'à la fin, Max fait quand même un don de sang, mais aussi un don de son héroïsme. Enfin, je veux dire, il transmet son essence à Furiosa et il lui donne son prénom. Enfin, il dit « je m'appelle Max ». Et donc, du coup, là, tout est dit, tout est envoyé, et C'est le flambeau, quoi. C'est vraiment le lien entre les deux, quoi.
Ce qu'on peut regretter, par contre, c'est moi, je pensais que c'est un film qui allait révolutionner le cinéma d'action. Je pensais qu'après, on verrait un cinéma d'action différent. Et puis finalement, il n'y a pas eu de vague Mad Max, quoi.
Adventure Endgame nous a montré que.
Mais même toute la série des Fast and Furious, qui sont aussi basées sur des courses-poursuites, sont des films qui sont creux à crever. Alors j'aime bien.
Ben, je trouve que Vaiana.
Bah, attends, on s'égare un peu si on part sur Fast and Furious. Mais
le
en revanche, c'est vrai que
même.
C'est pas le sujet de ce soir.
En tout cas, Vaiana chez Disney a fait son petit clin d'œil à Mad Max. Il y a une scène de poursuite sur un bateau avec des plans séquences et tout, et tu retrouvais la folie du... Et Vaiana, c'est John Musker et Ron Clements, enfin, ceux qui ont fait le Roi Lion de 94, quoi. Donc c'était
quand même... des vrais animateurs, quoi.
Voilà, des vrais
animateurs.
Mais en tout cas, vraiment sur Mad Max, qui a vraiment à dire, je pense, ça n'a pas révolutionné le film d'action, certes, mais c'est vrai que ça a amené un nouveau souffle, enfin en tout cas ça a fait un retour de flamme, sans faire de jeu de mots, sur le cinéma d'action, c'est-à-dire de reconstituer en fait, de constituer même des scènes d'action, des explosions, de faire des trucs en prise de vue réelle, en vivant, cascades.
Avec quelques effets CGI, mais très peu.
La
tempête, par exemple, parce que c'est impossible à...
C'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une utilisation vraiment intéressante, en tout cas des technologies, des possibilités qu'on a aujourd'hui, avec l'image de synthèse, avec les explosions, avec des prises de vue qui sont parfois vraiment éblouissantes, et tout ce que peut avoir aussi, la caractérisation des personnages. Je trouve que par exemple la tribu des femmes auxquelles appartient Furiosa, par exemple, c'est des femmes qui sont splendides, qui sont là, qui se battent justement contre un monde qui est contrôlé par les hommes. Les frères, par exemple, d'Immortan Joe, qui sont des gens qui sont absolument abominables aussi. Et la façon dont ils sont vaincus toujours dans le récit, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, quoi.
Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que les femmes et les hommes sont complémentaires dans Mad Max Fury Road. C'est pas du tout une opposition entre les hommes et les femmes, c'est vraiment les femmes sans les hommes, ben ça fait de la merde. Enfin, les hommes sans les femmes font de la merde, mais les femmes sans les hommes font aussi de la merde, parce que quand la blonde, elle dit alors comment vous faites avec les hommes, lui dit une balle dans la nuque et tchac, elle lui dit ah ouais, putain, c'est ça la supériorité, la sagesse féminine. Et c'est la plus jeune, c'est la blonde, là, c'est celle qui est la plus jeune, la plus fragile, entre guillemets.
Un dernier mot peut-être, Daniel, sur Mad Max Fury Road.
Gardons à l'esprit toutes les images iconiques qu'il y a dans ce film. Et il y a le mec qui fait de la musique, là, qui joue de la guitare à l'avant du camion. Il y a au petit matin, quand dans la tempête de sable, on voit arriver toute l'équipe de Immortan Joe et tout. Enfin, il y a des dizaines d'images iconiques. C'est un film génial dont on parlera encore dans 20 ans.
C'est un film qui n'a pas de scénario, mais qui tient sur un storyboard à peu près
350. 3000 dessins.
Non, pas tant, pas tant.
Ah bon?
À peu près 350 à 400
pages,
à peu près, de storyboard.
3000 photogrammes. Ouais.
C'est possible après qu'il ait travaillé. Mais bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Mad Max Fury Road, et vous pourrez retrouver en tout cas des analyses. Je crois que tu en avais fait une aussi sur ton blog.
Oui, j'en ai fait une, j'ai dit sur mon blog.
L'adresse de ton blog, c'est
fantasydou.com.
fantasydou.com, et moi c'était sur La Trappe Geek, et Daniel peut-être
écoutez, n'hésitez pas à le télécharger.
Téléchargez-le, ils ont gagné beaucoup d'argent.
Ce que je voulais rajouter sur Mad Max Fury Road, c'est que je pense que les expérimentations d'Ang Lee dans Gemini Man, film pareil qui a été très sous-estimé, je pense, enfin au moins d'un point de vue innovation technique et d'action pour le coup, a permis de redéfinir quelque chose au niveau de l'action et comment filmer une scène d'action, en fait, je pense. Après, peut-être je me trompe, mais...
On n'en parlera peut-être plus, mais vive Ang Lee et La vie de Billy Lynn, L'Odyssée de Pi, des films formidables, voilà. Regardez Ang Lee. Ouais. Très mal distribué en France.
Ah ouais, bah ça, personne n'a pu voir Billy Lynn à Paris, je crois, ou dans son vrai format, quoi, 120 images par seconde, quoi.
Et tout de suite, on enchaîne donc avec le deuxième film. Enfin, c'est pas si vous voulez dans l'ordre, mais bon, c'était Mad Max Fury Road. On était tous unanimes sur ce film-là. On va parler aussi donc dans la même veine un peu d'un cinéma, si vous voulez, d'anticipation post-apocalyptique. Il y a Il y a Cloud Atlas des sœurs Wachowski. On peut les appeler comme ça
les
aujourd'hui.
Les sœurs Wachowski, ouais. Bah, dans à la fin de Cloud Atlas, il y a écrit The Wachowski. Donc après, c'est
donc
une entité.
Les Wachowski.
C'est plus vraiment ni femme ni homme.
Voilà, on est. C'est un. C'est non-genré. Donc Cloud Atlas, Devakovsky,
ouais.
Avec un casting assez éblouissant, une histoire qui est assez très dense. Ça traverse le temps, ça traverse des époques, ça traverse des générations.
Quasiment ça traverse toutes les époques, a priori, de la préhistoire ou ce qui pourrait être jusqu'aux années du futur, enfin jusqu'à l'anticipation la plus folle, quoi. Et c'est en même temps aussi une frise chronologique du cinéma. C'est-à-dire qu'on passe du Schwarzbuckler qui est donc
Tu penses qu'il y a une mise en abîme comme ça du cinéma dans Cloud Atlas?
Complètement, parce que dans l'ouverture de Cloud Atlas, à un moment, il se retrouve devant une plage et tu as un plan qui est filmé de manière frontale. Tu as l'impression que c'est une scène de théâtre. C'est vraiment que tu es face à une scène de théâtre à l'italienne, donc en frontale.
Ouais.
Et que tout ce que tu vas voir, en fait, c'est la toute-puissance de la fiction. Et du coup, dans ce film, je pense qu'on retrouve beaucoup d'allusions au cinéma de Lumet, au cinéma politique de Lumet, au film de procès, parce qu'il y a pas mal de trucs qui ont lien avec des procès, du film historique, donc du Schwarzbuckler, enfin du film de pirates de KPDP, de la science-fiction façon Blade Runner, du côté un peu film noir, espionnage, un peu plus noir.
C'est justement ça, je sais pas, Daniel, peut-être que tu es d'accord avec nous, mais c'est vraiment ça qui est intéressant dans Cloud Atlas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un film qui traverse les époques, qui traverse le temps, mais qui traverse aussi les genres de cinéma, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur de la reconstitution historique, on est à la fois aussi sur un film très futuriste, avant-gardiste, avec toutes les scènes qui se passent justement en Corée, on est sur un film qui est total, quoi. Moi, pour moi, Cloud Atlas, c'est un film total.
Il y a du cinéma total, c'est un film très dense.
Attends, on a oublié quand même de citer qu'il y avait Tom Tykwer aussi dans les réalisateurs de Cloud Atlas. Parce qu'il y a les Wachowski, mais il y a aussi Tom Tykwer. Pardon, ouais. Tom, excuse-moi, le réalisateur de Lola court Lola, notamment.
Ok, oui c'est vrai. Super film. Ouais, non, je vais vous laisser beaucoup la parole sur Cloud Atlas. Écoutez, je l'ai vu, j'avais fumé un trop gros pétard, donc j'ai beaucoup aimé. J'en ai pris plein la gueule, beaucoup d'émotions. J'ai été secoué, mais je ne m'en rappelle pas du tout.
D'accord. C'était une intervention intéressante de Daniel. Merci. Si tu veux.
Écoute, moi, je peux parler des heures de Cloud Atlas.
Ouais. Bon, on peut continuer un peu. En même temps, le temps passe. Alors, on peut peut-être aussi Cloud Atlas, donc qui pour nous, en tout cas, un grand film dans Témoin Oculaire qu'on a beaucoup apprécié sur les années 2010. Personnellement, moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup ému. J'ai trouvé que justement les interprétations de tous les rôles, des différentes époques, des acteurs, leur retour, la façon dont ils géraient tout ça, c'était vraiment quelque chose de surprenant, d'inattendu.
Les maquillages sont incroyables.
Ouais, il y a quelque chose qui
les
est vraiment de l'ordre de
femmes,
l'inattendu.
Les maquillages de femmes, d'hommes, c'est tout ce côté transgenrisme de tous les personnages et tout, c'est assez fou, quoi.
Il y a une prise de risque aussi sur ce film. Je trouve que les histoires d'amour, quand elles apparaissent dans ce film, elles sont fantastiques aussi. Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment émouvant, qui prend au trip. En tout cas, pour moi, c'est un grand film.
Et ça joue aussi avec les allers-retours sur le temps. C'est-à-dire que les allers-retours sur le temps jouent sur l'émotion. Donc, tu vois différentes époques. Ça me fait penser à la série This Is Us qui joue beaucoup sur les émotions et qui joue sur les émotions par des passages comme ça, par le passé, présent, futur.
Et bien justement, en parlant des époques, en parlant aussi des mises en abîme et du cinéma, nous avons aussi dans notre top 10 le film Hugo Cabret de Martin Scorsese.
Attends, dans Cloud Atlas, ce qui est vachement important aussi, c'est le montage. Non mais le montage dans Cloud Atlas, c'est à peu près comme le montage dans Fury Road, quoi. C'est vraiment hyper important au niveau de comment lier les sentiments au personnage, comment à un moment il te parle de l'eau, puis tu vois de l'eau dans une époque, il te parle de l'eau, puis tu vois un gars tomber à l'eau dans l'autre. Enfin, il y a vraiment pas mal de liens comme ça de.
Mais t'as raison, c'est vrai que
transition assez.
Enfin, le montage est vraiment. Enfin, même la façon de passer d'une époque à l'autre et de suivre les personnages, même si c'est pas forcément les mêmes qui font les transitions. C'est vrai que tu connais le nom du monteur du coup.
Oui, je crois que c'est celui de Matrix, mais je suis pas sûr.
D'accord. Donc c'est celui de Matrix,
Jean-Pierre Matrix.
Non, mais je suis pas sûr que ce soit
Jean-Pierre Matrix.
Il me semble que c'est lui.
Mais Hugo Cabret. Alors Hugo Cabret, qui est un film, un mélange de d'animation, de CGI. Il y a un peu tout dans ce film-là. Moi, je trouve que c'est en l'occurrence une véritable mise en abîme du cinéma. C'est même pas une mise en abîme parce que c'est frontal.
T'as Ben Sisley qui joue Méliès, je crois. Donc,
voilà, c'est l'histoire.
C'est frontalement un hommage au cinéma français, quoi, bien sûr.
Au cinéma français et au cinéma.
Enfin, l'origine à l'histoire du cinéma, au Frère Lumière, mais aussi
à la mise en scène, on est d'accord là-dessus.
La mise en scène.
On sait que Scorsese est un passionné de cinéma, qu'il a une table de montage chez lui, qu'il récupère des vieilles bobines, qui remonte.
Une vraie Moviola, il a.
Qui réhabilite des films. Donc, et ce qu'il fait avec ce film, c'est exactement, c'est frontalement, il va nous parler de l'histoire du cinéma. Et pour moi, ce film, il arrive à un moment clé et il parle un peu de la mort du cinéma et de la Renaissance. C'est-à-dire que dans ce film, Méliès a abandonné le cinéma, il a caché ça, il tient juste une petite boutique et tout. Et puis c'est les gamins qui vont lui faire relancer la machine. Et le film arrive en 2011, je crois.
Ouais.
Mais quelque part, Méliès, c'est Scorsese, c'est le mec qui a 75 ans, 76 ans, je sais plus. À peu près, quoi. Enfin, qui, on va dire, dans la dernière tranche de sa vie, se confronte à de nouvelles innovations technologiques.
Exactement.
Le mec, il dit, j'ai découvert la performance capture pour ce film, quoi.
Il y a une révolution technologique.
À 75 ans, tu apprends encore et tu te... Ouais.
C'est-à-dire que Avatar, c'est 2-3 ans avant. Et donc, Avatar fait que tout le cinéma va passer en numérique. Donc, fini la bobine. C'est 2-3 ans avant, la bobine finie. Et il y a une espèce de nostalgie. Tout le monde va dire, oui, c'est fini, le cinéma, c'est mort. Le cinéma d'antan, c'est mort. Et ce qu'il nous dit Scorsese, qui est quand même un vieux cinéaste à ce moment-là, il nous dit, mais non, le cinéma ne meurt jamais. Il renaît à chaque fois.
À nous de le réinventer. Et
exactement.
Avec quel outil on va le réinventer. Ouais,
voilà.
Ça, c'est clair.
Et sur la décennie, quand même, Scorsese, il nous fait, même si c'est un vieux cinéaste, il nous fait Shutter Island, Le Loup de Wall Street, Silence, la série Vinyl, The Irishman.
Ouais.
Il est quand même très productif.
C'est
Hugo Cabret, quoi.
Ouais, non, c'est sûr. Et Irishman, d'ailleurs, on va pas en parler beaucoup, mais qui comporte aussi des innovations technologiques, puisqu'il a essayé de faire du de-aging et du re-aging.
Ce qui est très peu fait,
selon certains, pas très bien, moins bien que les films Marvel, selon d'autres. Mais on ne peut pas s'empêcher de trouver l'idée intéressante de faire jouer à des mêmes acteurs toute leur vie. Finalement, d'acteurs et de personnages. Enfin,
ouais.
C'est juste.
Il y a une idée de. Bon, de toute façon, Scorsese, c'est un génie. C'est le monstre Scorsese sacré.
On en parlait dans l'émission précédente de son dernier film qui est. Aidez-moi.
The Irishman.
Merci, les Irlandais, bien évidemment. Mais c'est vrai que. Moi, pour moi, en tout cas, chaque film de Scorsese, c'est un peu une leçon de cinéma. C'est un amour du cinéma qui montre, qui partage surtout, parce que c'est pas que le montrer, c'est quelque chose qui partage en fait toujours avec les spectateurs. Enfin, il y a toujours un truc, des réalisateurs en tout cas américains de cette génération, des mecs qui sont un peu du nouvel Hollywood des années 70. Il y a une espèce de conviction, il y a un attachement en fait au cinéma.
Il y a quelque chose de très enfantin dans son attachement.
Absolument,
au cinéma.
Ouais.
Et d'ailleurs, juste un petit mot sur Scorsese, si vous avez pas vu Vinyl, la série qu'il a produit, qui a été annulée très lâchement par HBO. C'est un chef-d'œuvre, il n'y a qu'une saison, elle a coûté 100 millions de dollars. Regardez-la, c'est génial sur l'histoire du rock'n'roll.
Téléchargez-la.
Justement, en parlant de jeunesse, il y a aussi RPO. Donc,
Et oui, sans transition, RPO. Et alors là, je vais te laisser en parler, Guilain, parce que là, on est vraiment dans l'univers complet, total, de George Lucas, de Steven Spielberg, de tous les films des années 80-90, les références populaires au possible.
Au-delà, on est dans l'univers de tout le cinéma.
Déjà, ce qu'a commencé à faire Spielberg quand il s'est lancé sur ce film, c'est d'enlever du bouquin de Ernest Cline, donc qui est un peu, dont il était un peu l'idole. Hein, je veux dire, Ernest Cline, son idole, c'est Spielberg. Il a enlevé toutes les références à son cinéma. Il a dit, non mais moi, je ne peux pas parler de moi. Donc on va pas parler de moi. Et donc il a enlevé toutes les références à son cinéma et il a rajouté des scènes, donc deux ou trois scènes, en tout cas dans les épreuves. Il a rajouté la scène de course poursuite en bagnole, là, qui n'est absolument pas dans le roman. Et il a rajouté la scène avec Shining, qui n'est pas non plus dans le roman.
Qui est génial,
parce que c'est pareil, une manière de relire les aînés et de dire on peut en faire quelque chose d'autre sans trahir.
Ça n'a pas vraiment d'intérêt dans la narration et c'est une scène formidable.
Ah, c'est une scène formidable.
Ouais.
C'est une scène formidable parce qu'elle définit exactement comment est James Hallyday. Quoi. C'est vraiment c'est le mogul, mais en même temps, c'est le gars qui va tout le temps se réinventer, qui va t'apporter d'autres choses. Lui-même, dans son jeu, il met des easter eggs pour les gens qui seront assez intelligents pour passer par en dessous, hein, pour partir en marche arrière, pour ne pas trop spoiler s'il y a des gens qui veulent quand même voir un peu le film. Et RPO, je trouve qu'il concentre tout ça, quoi, ce besoin qu'a Spielberg J'avais pas envie de dire de couper le cinéma doudou parce que il est responsable avec E.T., avec tout ça, de cette nostalgie.
Il le questionne.
Mais il le questionne, il te dit, il y a quelque chose derrière. Quand il te montre le géant de fer, il te dit pas, ah c'est le géant de fer, regarde, c'est trop cool et tout. À un moment, il montre au gamin la moto, il fait, eh, regarde, c'est la moto d'Akira. Et l'autre, il lui fait, mais oublie la moto quoi. Oublie la moto, on pense à la course là.
Complètement, et c'est pour le spectateur bien sûr.
Et ben oui.
Oublie les références.
Ça veut dire, oublie les références, ne joue pas à faire. J'ai vu, il y a plein de sites sur YouTube qui sont sortis avec des millions de références.
Il y a une infinité de références.
Mais ça ne sert à rien parce que le but, il n'est pas là. Le but, il n'est pas de trouver toutes les références.
Exactement. Et c'est pour ça qu'il a. C'est pas le premier à avoir tenté ça. Il y avait Chris Columbus l'a fait avec Pixel. C'était assez mauvais.
Oui, c'était raté malheureusement.
Il y a eu Les Mondes de Ralph. Disney a tenté avec Les Mondes de Ralph.
C'était un peu mieux.
Ça restait quand même mauvais. Mais là, on voit Spielberg, un mec qui a 75 ans, qui arrive à faire un film d'une modernité incroyable, qui questionne. Donc c'est quand même lui qui, comme tu disais tout à l'heure, qui est un peu le.
Attends, il a pas 75 ans.
Ce cinéma doudou, quel âge il a? 72 ans.
Il va avoir 60. Il a 60. Ouais, 70.
Ouais, un peu plus, je pense. Mais bon.
Un peu plus. Mais comme Scorsese, on est d'accord. Ouais, il est dans une volonté d'arriver au seuil de sa vie et de se réinventer.
Voilà, mais Scorsese, il a toujours fait quand même du cinéma considéré comme auteur, alors que
Spielberg il a toujours été
celui qu'on accuse d'avoir fait le merchandising, fait l'entertainment, quoi, avoir passé le cinéma du côté entertainment.
On l'accuse d'avoir inventé le blockbuster avec Jaws, alors que c'est pas vrai du tout. En fait.
Mais il questionne complètement ça dans ce film. Il questionne la différence entre le film d'auteur et le blockbuster. Il questionne qu'est-ce que c'est d'être un créateur, qu'est-ce que c'est d'avoir créé la pop culture, parce que c'est un des fondateurs de cette idée.
Exactement, c'est tout ça. En fait, le fond du film, mais bien sûr, les fondements de Ready Player One et ce titre qui est magnifique, je trouve, Ready Player One.
Bien sûr, c'est l'ouverture d'un jeu vidéo. Quoi.
C'est toute notre enfance, ce truc-là. Quoi.
Et sur le truc des références, il y a énormément de références, une infinité, donc oui, ça sert à rien de les repérer. Et il y en a tellement que pour moi, il a fait un objet où toi-même tu peux mettre les références que tu veux dedans. C'est-à-dire film s'ouvre sur Jump de Van Halen, mais putain, moi je pense à un match de l'OM, tu vois. Et parce qu'il me laisse la possibilité de tout voir dedans. Le créateur s'appelle James Hallyday, mais putain, je pense à Johnny Hallyday. Je peux mettre ce que je veux dedans, mais parce que. Il a fait en sorte que chacun peut mettre les références qu'il veut dans son film, tellement qu'il est fourmillant d'idées. C'est un film qu'on peut analyser, chaque scène peut être analysée. On peut faire un livre sur chaque scène du film.
Ah oui, sur chaque scène, je confirme. J'ai d'ailleurs fait une analyse de.
Ah, mais j'aimerais.
Il y a une analyse sur ton blog aussi.
Ouais, ça s'appelle Ready Player One. Comme la femme, One. Parce que c'est aussi une histoire d'amour dans Ready Player One.
Ah ouais, absolument. D'accord. Peut-être un dernier mot sur celui-ci avant de passer au dernier de ce premier top 5.
Tu veux, vas-y.
Par contre, si vous devez le voir, voyez-le en VO, si vous pouvez.
Bien sûr.
Enfin, en VO. Ou en VF, c'est pas grave, mais surtout en 3D, parce que c'est super important. Ça fait partie du processus type du film. Quoi. À partir du moment où il met ses lunettes et qu'il rentre dans un monde en VR, donc en réalité virtuelle, la 3D est un élément en plus qui comme dans Avatar, installe le spectateur dans une connivence avec le film. Et ça, c'est vachement important.
Bien sûr. Et le film parle d'ailleurs de ça. Il parle de. Qu'est-ce que c'est la différence entre le réel, le virtuel, le réel, l'imaginaire, vivre dans l'imaginaire, vivre dans les films, être cinéphile.
Et être un créateur.
C'est le film seul.
Les regrets, vivre dans les regrets, qu'est-ce que les regrets.
Être un créateur.
Ce qui est vraiment, on n'en a pas trop parlé, mais ce qui est vraiment important en tout cas dans Ready Player One, c'est justement ce personnage-là. Alors excusez-moi, mais j'ai oublié son nom, qui est le créateur en fait du monde.
Et c'est James Hallyday.
Et qui lui en fait est. Enfin, caractérise justement tout ça, c'est-à-dire qu'il crée en fait un espèce de monstre qui lui échappe, et peut-être que j'imagine Spielberg.
Ce qui est vachement intéressant à dire justement sur ça, c'est que Spielberg, c'est à la fois James Hallyday, à la fois donc le héros, je ne rappelle plus son prénom, et en même temps c'est le méchant, Nolan Sorrento.
Qui commercialise.
Chaque fois que je dis Nolan Sorrento, ça me fait rire parce que je pense à Nolan, mais non. Et donc Nolan Sorrento qui dans son avatar est représenté comme un Superman noir, enfin c'est un sombre, un Superman du mauvais côté de la barrière quoi. Et c'est un peu ce qu'il est, c'est-à-dire que Spielberg est à la fois le mogul qui est présenté comme un commercial, qu'il est aussi un peu un commercial qui produit des tas de films, de séries, pas forcément du mieux possible, pas forcément des meilleures séries possibles, qui va chez Apple Plus, qui va un peu à tous les râteliers, mais en même temps c'est tellement un monstre, un boulimie de cinéma et d'envie de cinéma que du coup il est aussi à l'idée, ce créateur qui était un peu comme dans Le Bon Gros Géant, ce mec qui t'apporte autiste, de l'émotion, un peu autiste et tout ça quoi. Et ça c'est vachement important.
Je dirais un dernier mot. Spielberg, c'est le plus grand réalisateur de notre époque, hein. Franchement, de loin, il faut revoir sa filmographie pour voir à quel point le nombre de chefs-d'œuvre qu'il a fait. C'est son film somme et son film testament. Donc voilà.
J'espère que pas c'est que son film testament, mais c'est son film somme en tout cas. Ouais. Voilà. Il peut mourir demain. Il a apporté ce qu'il avait apporté au monde.
Il a clôturé.
Il a tout fait. Ben on va passer à un film qui est un peu d'un autre genre, mais qui est aussi quelque chose de l'ordre de la culture populaire, j'ai envie de dire. Le film Lego.
Ah, La Grande Aventure Lego, putain, génial. Oui. Alors, il y a eu des films d'animation super sur cette décennie. Moi, j'ai aimé Zootopie, j'ai aimé Vice-Versa, mais La Grande Aventure Lego, c'est une licence qui me faisait peur parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire en rachetant la licence Lego? Et en fait, on trouve donc les réalisateurs, j'ai oublié leur nom, ils sont deux. C'est les gars qui avaient fait 21 Jump Street.
Oui, et ils ont fait aussi...
21 Jump Street, qui était très marrant, hein, qui était des très bonnes adaptations. Et là, ce qu'ils ont réussi à faire en prenant cette licence, c'est vraiment prendre en compte ce que c'était de jouer au Lego. C'est-à-dire que c'est un film qui parle de jeu, qui parle de construction, qui parle... C'est compliqué d'en parler sans spoiler, mais...
C'est un peu comme RPO, ça parle de création au sens littéral, quoi. C'est-à-dire que partir du plus petit élément de la création, c'est l'imaginaire. L'imaginaire enfantin, sans trop spoiler. Je veux dire, c'est quelque chose qui est...
Eh oui. Et c'est aussi la première brique Lego.
Et c'est la première brique. Voilà, c'est le plus petit élément de fiction qui est juste un personnage, quoi. On part d'un personnage pour écrire quelque chose. Ouais. Et c'est vraiment ça. Emmett, c'est vraiment un personnage comme ça qui est prisonnier d'un monde plus grand que lui, on va dire.
Ouais.
Je pense que c'est le.
Ouais, c'est bien pour le. Je pense sans spoiler, c'est bien dit. Et en plus, c'est plein de gags. C'est un film qui est drôle. Il y a une idée par seconde comme ça. Et puis, comme c'est du Lego, donc le décor se construit devant nos yeux. À chaque fois, il se transforme, il se reconstruit parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec les Lego. Et l'idée, c'est quand même qu'un combat entre la liberté. Donc, est-ce qu'il faut suivre le plan du Lego et être contraint par un plan, ou alors on construit ce qu'on veut dans notre vie et on n'a pas de plan. Et
d'ailleurs, à ce sujet, j'ai aussi écrit un.
Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il est 21h40, il faut qu'on avance aussi, parce qu'on a encore 5 films à faire. Mais qu'est-ce qu'il y a, juste pour finir sur Lego, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé en fait de le mettre dans votre top 10 de l'année 2010, dans cette dernière décennie? Il y a quoi pour vous qui est vraiment innovant, nouveau, inattendu, qui mérite justement cette place-là?
Pour moi, c'est un film avec des jouets qui parle d'enfants qui jouent avec des jouets. C'est-à-dire que les jouets reste à leur place de jouer dans ce film. C'est pas G.I. Joe ou Barbie, c'est pas une licence qui prend des jouets et qui en fait des personnages. C'est des personnages dedans, mais c'est des jouets. Et c'est Will Ferrell aussi. Bon.
Ça joue avec notre nostalgie, mais ça nous prend pas pour des vaches à lait ni pour des cons. Enfin, ça te vend pas des briques Lego. Après, peut-être que quand tu sors du film, t'as envie de t'amuser avec tes anciennes briques Lego ou avec l'astronaute et de reconstruire des trucs. Mais c'est vrai que ça parle vraiment de ce plaisir que t'as quand t'es enfant à construire quelque chose et à inventer. Et je pense que c'est aussi une manière de parler du métier de réalisateur et tout ça. Enfin, c'est la boucle est bouclée avec RPO et tout ça. Enfin, je veux dire, on est vraiment.
Il y a quelque chose aussi, moi, qui m'a passionné, c'est qu'il y a un scénario qui est incroyable avec des twists vraiment auxquels tu t'attends pas, tu es vraiment attrapé par ces twists. Tu comprends pas des éléments de décor, des éléments de scénario que tu comprends au fur et à mesure et qui en déclenchent d'autres. Et tu es pris dans un scénario passionnant, quoi. Et le final. Pour moi, le twist final, c'est un des meilleurs.
Le twist final, c'est un des meilleurs twists de tout le temps de l'histoire du cinéma. Ça te recolle aussi avec ton propre questionnement sur d'où tu viens, la place du spectateur, mais aussi ta place en tant qu'être humain par rapport à la galaxie, par rapport à un possible créateur ou de possibles entités créatrices ou ce que tu veux, la force même, pourquoi pas. Et c'est vrai que du coup, ça te raccroche à ça et c'est vraiment très intéressant aussi dans le film, ça.
Ben justement, voilà, donc vous l'avez compris, Lego est un film qu'il faut voir. Pour ma part, j'ai pas trop intervenu dessus parce que je l'ai pas vu, à regret d'ailleurs, mais en tout cas ça fait partie de mes nouvelles résolutions pour l'année 2020.
Vous avez pas besoin de le télécharger.
Ouais, et il y en a plein d'autres, et il y a toute une série de films Lego sur Netflix. Donc pour récapituler ce premier top 5, on avait donc Mad Max Fury Road de George Miller, Cloud Atlas d'Eva Kowski, Hugo Cabret de Martin Scorsese, Ready Player One de Steven Spielberg, et donc le film L'incroyable monde des Lego.
La grande aventure Lego.
Voilà, le mec il est à la ramasse, qui est réalisé par qui?
Lord Miller.
Oui, c'est Lord et Miller, c'est ça, Chris.
Et voilà, donc on va s'écouter un petit morceau de musique. On va faire une petite pause de quelques minutes. Je vous donnerai le titre après, mais de toute façon, dès l'intro, vous allez le reconnaître. À tout de suite.
On est de retour dans Témoin Oculaire sur Radio Galère 88.4 en direct et en DAB+, diffusé également sur le site de radiogalère.org. Donc on continue sur notre top 10 de l'année, enfin en tout cas pas l'année mais la dernière décennie, les années 2010. Et on va prendre la suite alors avec des films, il y en a 5 qui sont des films si vous voulez qu'on a sélectionnés, qui nous ont plu bien évidemment, qu'on a insisté pour mettre dans notre top, mais qui ont si vous voulez la particularité d'être des films aussi un peu plus de réalisateurs, des films un peu plus importants de ce niveau là, qui sont pas forcément des films très grand public mais qui ont eu aussi leur importance, qui ont apporté quelque chose. On va commencer tout de suite donc par Inherent Vice de Paul Thomas Anderson alors... avec Joaquin Phoenix qui est quand même, moi je trouve en tout cas dans la performance d'acteur beaucoup plus impressionnant en tout cas que dans Joker.
Pour moi c'est l'acteur de la décennie aussi.
Ah oui, non, c'est sûr que dans Inherent Vice il est incroyable.
Qui a les plus grands rôles. Inherent Vice, c'est le moment de parler un peu de Paul Thomas Anderson qui est quand même un très grand réal. Ses films, on rencontre pas souvent le public alors que il rencontre souvent la critique.
Bah, il a fait des vrais chefs-d'œuvre, quoi. Tu vois Magnolia, par exemple.
Exactement.
C'est incroyable. Quoi.
Boogie Nights, c'est
Boogie Nights.
C'est super film.
Bon, après, on parle un peu d'Inherent Vice, mais moi, quand même, je reste sur Phantom Thread, le film qu'il a sorti l'année dernière, qui a pour moi été, enfin, je veux dire, un film exceptionnel.
Voilà. Ah, je l'ai pas vu, alors je peux pas t'en parler.
C'est mon cinéma, c'est le genre de cinéma que j'aime. Voilà, après
alors pour dire juste un mot sur Inherent Vice, après on parle de Phantom Thread si tu veux, mais pour moi c'est une espèce de mélange entre Le Festin Nu et Le Big Lebowski.
Ouais,
c'est
on
reprend les codes du film noir des années 40, mais sauf qu'au lieu de se passer à Chicago dans les bas-fonds, dans les ruelles qui puent la pisse, ça se passe dans le Hollywood magnifique, celui que filme Tarantino dans Once Upon a Time.
Oui, on n'est pas chez Elroy, tout à fait. Ouais, c'est vraiment
donc c'est les années 70, la fin du rêve hippie
coloré et tout,
et voilà, c'est hyper coloré mais complètement
acide, des drogues, tout le long du film t'as l'impression que t'es aussi shooté que le mec, quoi.
quoi. Je sais pas, moi, à un moment donné, j'avais l'impression de faire partie de la bande aussi. De...
Sexy, ouais, non, c'est vrai.
Donc, c'est vraiment un film à voir, ça a fait un flop monumental.
Ça a fait un flop.
Ah ouais, quand je travaillais dans la salle où je travaillais, on a dû faire 3 entrées sur 3 séances. Ça dure 2h30, mais quand on est dedans,
ouais,
on n'a pas envie d'en
faire.
Précise-nous où tu travaillais quand même, parce que je pense qu'il a fait.
Je travaillais au Méliès de Port-de-Bouc. Super salle, c'est la meilleure salle de la région. Hein, si vous cherchez.
Arrêt, c'est un cinéma, arrêt.
Arrêt, c'est tout. Ils font tout et plus.
D'accord.
Mais
ouais, voilà. Paul Thomas Anderson, quand même, un réalisateur majeur, on va dire, depuis ses 20-25 ouais. dernières années. Il nous a toujours servi des films. Alors, il met un peu de temps à sortir ses films aussi, hein, parce que c'est quelqu'un qui les fabrique très minutieusement.
Ouais. There Will Be Blood, c'est lui aussi.
There Will Be Blood, ouais, bien sûr. Très grand film. C'est son film qui a le plus de succès. C'est...
Avec ouais. Daniel Day-Lewis, ouais. Incroyable ce film aussi.
Il a toujours la chance d'avoir quand même des acteurs qui sont toujours.
Je pense que c'est un super directeur d'acteurs.
Ah, enfin, ça se voit. Il se fait le top du carton. Enfin, je veux dire, c'est...
Ouais, ouais, c'est vrai. Philippe Zemmour Hoffman.
Philippe Zemmour Hoffman, la grande perte de ces années 2010.
Philippe Zemmour Hoffman. C'est vrai. Ouais, immense acteur.
Et on retrouve le comédien qui joue dans le film de Joe Dante aussi, comment il s'appelle, Martin Short.
Je vois pas qui c'est.
Il joue dans le film de Joe Dante, L'aventure intérieure, Inner Space.
Oui, bien sûr.
Et ben, il joue le héros dans Inner Space. Et là, il joue une espèce de directeur de clinique, pervers, mais on sait pas trop si c'est un délire de Joaquin ou s'il est vraiment comme ça. Enfin, si tout ce qui se passe arrive vraiment ou c'est juste un mauvais bad trip à cause de la drogue. Mais cette séquence-là dans la clinique, au bout d'un moment, tu te dis. Mais...
Oui, parce qu'il faut le signaler sur le film, on ne sait jamais ce qui se passe réellement ou ce qui se passe dans le délire de Joaquin Phoenix qui est tout le temps défoncé. Et donc, il y a un scénario complètement alambiqué où à un moment on le lâche complètement. Même
à un moment il a mis avec un flic, mais le mec il rentre dans sa maison en cassant la porte, il bouffe, à un moment il soulève le cendrier, il mange les mégots.
Bah, c'est ça qui est formidable,
c'est un trip psychédélique formidable.
C'est Inherent Vice, le vice quoi,
le
tiré d'un livre de Thomas Pynchon.
Ouais,
c'est une adaptation et d'ailleurs il a jamais été nominé aux Oscars je crois pour meilleure adaptation, mais en tout cas Inherent Vice on vous le recommande, de Paul Thomas Anderson et un peu toute la filmographie j'ai envie de dire de Paul Thomas Anderson si vous êtes intéressé par ce genre de cinéma.
Ouais,
et que
Magnolia,
vous avez 3 heures à passer
Magnolia,
par un écran.
Magnolia, Tom Cruise. Tom Cruise, pour le coup, c'est un acteur qui est très populaire.
Et là, on va passer donc sur un cinéma un peu particulier aussi, mais c'est un réalisateur quand même, et je pense que c'est aussi le réalisateur qui est important sur cette dernière décennie, Christopher Nolan.
On l'a évoqué
entre ce
tout
qu'il
à l'heure,
a réalisé, ouais. Entre ce qu'il a produit, entre ce qu'il a accompagné, entre ce qu'il a écrit avec son frère, la trilogie
Jonathan.
Batman, Inception, ouais, ouais. Dunkirk, son travail justement sur...
Interstellar,
bien sûr.
Qui était à la base un projet de Spielberg d'ailleurs.
Ouais,
ouais, c'est pas étonnant.
Qui a été écrit par Jonathan Nolan pour Spielberg, et qui après a été repris par...
Alors, ce qu'en a fait Nolan, c'est super. Hein,
par moi, non, c'est un des premiers émotionnels de Interstellar, je trouve, de Nolan.
Ouais.
C'est un des premiers Nolan émotionnels vraiment où tu trouves une émotion que tu n'avais pas forcément. Enfin, je veux dire, moi, Inception, par exemple, j'ai jamais été attristé par la mort de Mal ou par des trucs
je
comme ça.
Je suis d'accord, c'est un film un peu froid.
Ouais, il est très froid.
Mais
dans le drame,
film génial. Hein.
Il est très bien. Moi, j'ai vraiment très. Après, je trouve que il a un peu trop copié Paprika de Satoshi Kon, que moi j'adore, pour moi. Mais c'était déjà le cas, par exemple, comment il s'appelle, Aronofsky, il avait fait pareil avec Millennium Princess, Black Swan.
Ouais.
Bah c'est Millennium Princess, quoi. Donc Satoshi Kon, à la fois chez Nolan et à la fois chez Aronofsky, il a été un peu un inspirateur. Mais du coup, quand tu vois Paprika de Satoshi Kon, bah tu te dis waouh, putain, c'est.
Ouais.
À Nolan à côté, c'est de la roupie.
C'était plus compliqué à faire, j'imagine, pour Nolan.
Mais c'est
en
bien.
En réel, qu'en Paprika, c'est un film d'animation.
Ouais, c'est sûr qu'en réel, c'est plus compliqué, mais c'est plus au niveau de l'histoire que je trouve que.
Oui.
Il a pris un peu des facilités.
Le scénar. Alors pour moi, Nolan, c'est un réalisateur qui intellectualise les blockbusters. C'est très bien. Après, ses films, ça reste des blockbusters quand même, mais. Tous ces films, on prend un plaisir quand même à les voir, quoi.
Mais c'est pour ça que dans Interstellar, je trouve qu'il est moins dans l'intellectualisation. Je sais pas si c'est parce qu'à la base, c'est un projet spielbergien, donc beaucoup plus émotionnel. Et du coup, il est beaucoup plus dans le ressenti.
Il y a une complexité du twist.
Et même si les planètes sont pas oufissimes, enfin beaucoup de gens ont regretté l'imaginaire des planètes, enfin que c'était des trucs un peu bateaux, quoi, l'eau, machin, les cubes. Mais
sont pointilleux parfois les gens.
Ouais, hein. Mais par contre, je trouve que l'émotion, elle est là, quoi.
Mais
la
c'est
scène
marrant.
où il est sur Skype et il parle avec sa fille, qui est bon, voilà. Et ben, elle est.
Mais c'est marrant que tu parles d'émotion parce qu'on en revient pour une troisième fois. C'est-à-dire que comment il fabrique de l'émotion dans ce film, comme on disait tout à l'heure, en jouant sur le temps.
Ouais.
C'est-à-dire en jouant sur le passé, présent, futur, et du coup ça fabrique de l'émotion parce que tu connais le passé des personnages, ils se re-rencontrent. Donc en fait, finalement, c'est un tic scénaristique, ça. C'est un petit truc scénaristique quand on joue sur les, bah sur les différentes temporalités, on fabrique de l'émotion.
Je sais pas si tu as vu la bande-annonce, le nouveau Nolan, c'est Tenet, ça s'appelle. Et l'histoire, en fait, c'est un mec qui apparemment, le monde va à l'envers et lui, le seul à l'endroit. Donc, du coup, il peut empêcher, par exemple, les braquages au moment où ça arrive. Parce
Memento.
Que
son premier film, c'est Memento.
Ouais,
hein,
ouais,
y a
ouais.
Pas, y a pas
donc,
de
c'est,
mystère,
c'est assez ouais. intéressant à voir ce qu'il va donner avec ce
la
ce
déconstruction,
sujet-là,
la déconstruction de la temporalité du film. C'est ouais. toujours ça, un peu, qu'on peut retrouver dans le cinéma de Nolan et toujours, justement, cette envie-là de ben travailler
moi,
avec,
de Nolan,
avec, des supports qui sont toujours des supports très précis sur le cinéma pour faire plaisir aux spectateurs. Il est 21h53, on
de
va
Nolan,
enchaîner.
Moi je conseille juste The Following, le suiveur en VF.
Ouais.
Et c'est un super, c'est son premier film et c'est il est ouf quoi.
Ouais, téléchargez-le celui-là aussi.
Voilà.
On va enchaîner tout de suite donc avec Le Redoutable et ouais, un film inattendu de Michel Hazanavicius que vous avez souhaité vous mettre dans le top dans le ouais. top 10. C'est un film qui parle de, on va dire, Le Redoutable, c'est qui, c'est
bah, ça parle de Jean-Luc Godard.
Jean-Luc Godard.
Jean-Luc Godard, ouais.
Moi, je vais être très bref dessus pour Vas-y. Dire Le Redoutable, pour moi c'est un film de Godard mais réussi. C'est-à-dire c'est un film qui a été fait sur Godard, sur l'ambiance Godard, qui retranscrit tellement tout le personnage Godard, mais heureusement il n'est pas réalisé par Godard, donc du coup il est objectif et il est c'est une claque quoi, parce que il prend le risque de fâcher les gardiens du temple sur Godard, parce qu'il ne faut pas toucher à Godard ni en fac de cinéma.
Ils ont
ni...
été fâchés d'ailleurs.
Ah, ils ont été très fâchés.
Ah, oui. Défoncés par la critique.
Mais c'est pas grave, parce que c'est un vrai film de cinéma qui transpire l'amour du cinéma.
Exactement, c'est un film formidable.
Et qui respecte Godard en même temps. Hein. Je veux dire qu'il
a... Bien sûr, c'est tendre sur Godard. En fait, il est ridicule dedans, mais le film est tendre sur Godard. Et c'est Godard 1968, pendant les années 68, et on se rend compte qu'il est totalement déconnecté du réel, déconnecté
il est que
de ses contemporains.
Et il est plus cinéma, quoi.
Et puis il est bouffi d'orgueil de toute façon.
Tout à fait,
ouais. C'est quelqu'un de brillant, mais bon, qui est bouffi d'orgueil, qui déteste tout le monde, qui est dépressif. Et c'est un film d'Hazanavicius, et tout l'humour d'Hazanavicius, on l'a adoré avec les OCS. The Artist, c'était aussi pas mal. Hazanavicius, c'est quelqu'un qui a amené vraiment quelque chose dans la comédie populaire en France. Et avec Le Redoutable, il a amené quelque chose de génial. Et il met quand même un bon coup de pied au cul à tous les Godard-olâtres qui nous font chier, parce que Godard, c'est quand même de la merde.
Oui, je l'aurais dit. Je suis pas d'accord avec toi.
Le livre d'image, c'est le
Godard,
plus mauvais
c'est pas
film
de
qu'on
la
a jamais
merde.
Vu.
J'aime
hein,
beaucoup le cinéma de Jean-Luc Godard. On va pas rentrer dans un débat comme ça stérile.
On a pas le temps.
On a pas le temps
de se taper. Moi, je veux juste dire sur.
Très important.
Je veux juste dire sur Michel Hazanavicius que. Oh, j'ai réussi à le dire pour une fois. Qu'il sort un film bientôt, là, dans le courant. Février, je crois, qui s'appelle Le Prince ou quelque chose comme ça, avec Omar Sy. Et dedans, il joue le rôle d'un père qui lit des histoires à sa petite fille. Seulement, un jour, la petite fille grandit et elle rencontre un jeune homme. Et si le père est tout le temps dans un espèce d'univers fantasmatique du conte de fées, au moment où elle rencontre ce jeune homme, quand il arrive dans l'univers fantasmatique, on lui dit ah non, mais vous pouvez plus rentrer maintenant. Le monde, il appartient au prince, plus à vous. Et voilà. Donc c'est.
On ira le voir.
Ça a l'air ouf, voilà.
Ok, ben voilà, on ira le voir. Omar Sy au cinéma, The Impossible, on va y aller très vite.
Alors très vite sur The Impossible, il est repassé hier soir sur W9, je l'ai revu, réalisé par
Juan Antonio Bayona.
Bayona, ouais, qui a fait
aussi réalisé Jurassic World, Fallen Kingdom,
qui a fait Jurassic
très,
World
très bon.
Aussi, ouais. Et un film formidable sur le tsunami en 2006 en Thaïlande. Sur une famille bon, c'est, qui prend le tsunami, ils sont tous séparés, ils vont essayer de se retrouver. Il y a de l'émotion pure, il y a la brutalité de la nature.
Les Inrocs ont détesté, évidemment.
Ah, tant mieux. Tant mieux, on a...
Encore une autre boussole à indiquer le sud des Inrocs.
Et c'est la brutalité de la nature, parce que là, on n'est pas chez Emmerich, là, les cadavres, on les voit, les montagnes de cadavres, les mutilations.
Ah bah la scène où le gamin voit sa mère complètement desquamée de l'extérieur de la jambe.
Le visage pourri de minute en minute. Et face à ça, face à la brutalité mortifère de la nature, c'est le lien entre les gens.
Le lien,
voilà.
L'amour et le lien qui nous unit.
Voilà,
et la place aussi, comment trouver, comment cette petite, on va dire, bourgeoise médecin un peu, pas dénaturée, mais déconnectée des réalités du monde, va face au tsunami se rendre compte que, bah, qu'il y a quelque chose après les petits tracas des riches médecins. Américain ou espagnol, je sais plus. Enfin, il y a quelque chose d'autre, et que ce quelque chose d'autre, tu le trouves dans la grâce, et que tu le trouves justement en te confrontant, comme à RPO, comme tout ça. C'est encore un truc initiatique où on se perd pour se trouver, un peu comme Gravity
et oui,
également.
Et on se retrouve en se mettant aussi au même niveau que tous ces Thaïlandais, tous ces Thaïs qui rencontrent et qui sont...
Oui, parce
faut se rappeler
plus...
quand la vague elle tape dans une vitre, c'est-à-dire ouais. qu'ils sont coupés par une vitre à
Exactement.
Toute sa population thaïlandaise et puis d'un coup tout le monde se retrouve dans la même merde.
La vitre est brisée et tout est rempli.
Et tout se mélange dans l'eau, dans le liquide.
Le monde est mauvais, encore il n'y a pas trop de mauvais dans le truc.
Non, mais il y a surtout la mort.
Mais il y a la mort à tous
et
les coins de rue.
Source
quoi.
De vie, source de mort. Alors
et en face le lien, et ça me fait penser à un film...
Il y a même le capitalisme, source de vie, source de mort, parce qu'à un moment, il y a quand même un moment où il se retrouve à devoir boire une canette de coca qui au début était un truc dans le minibar qui l'intéressait pas et d'un
oui.
coup devient
et au final la canette
de...
et quand elle délire de fièvre elle dit il reste une gorgée dans la canette
ça reste une source d'énergie pure quoi enfin...
Et juste un mot pour sur la brutalité, la puissance de la nature, c'est un film dont j'avais déjà parlé à ce micro il y a à peu près quand c'est sorti il y a à peu près 8 ans, c'est Les Bêtes du Sud Sauvage de Ben Zetlin, c'est son premier film, il a rien fait depuis. Et c'est formidable, c'est dans le bayou, un film poisseux sur le bayou du Mississippi, sur une petite fille élevée par son père et qui vivent comme des sauvages dans la nature, dans des caravanes. Et voilà, je pense que le lien est à faire dans la poisse et dans la puissance de la nature.
Malheureusement, c'est pas un film coréen, mais on va parler aussi du cinéma coréen pour conclure cette émission. Le cinéma coréen qui, sur les 10 dernières années, quand même, a eu un véritable impact. On sait déjà depuis longtemps, en tout cas, que les Coréens sont toujours, si vous voulez, à cheval, en tout cas, sur le cinéma de genre américain, spectaculaire, avec beaucoup d'action, avec du combat auquel on a été habitué, et aussi avec beaucoup de profondeur, avec des personnages extrêmement bien écrits, que ce soit à la fois sur des films qu'on peut parler. Bon, je suis désolé, hein, je vais pas pouvoir citer tous les noms des réalisateurs des films qu'on va évoquer, mais en tout cas voilà, il y a vraiment un engouement aujourd'hui à l'international sur le cinéma coréen. On voulait justement consacrer une petite partie de cette émission, il nous reste très très peu de temps, sur le cinéma coréen, en tout cas apporter un hommage. On espère qu'il va y en avoir beaucoup justement par rapport à Parasite qui a
voilà,
eu
la Palme d'Or. Je pense qu'elle va changer la vision qu'on a sur le cinéma coréen, qui est un cinéma en même temps de comédie, en même temps d'action, où il y a de la chorégraphie de combat et où il y a du twist des scénarios. C'est des super scénaristes, vraiment, il faut voir. The Stranger, moi si je vous en cite qu'un, regardez The Stranger.
Moi, ça serait Dernier Train pour Busan. Je sais que Daniel, il aime pas trop, mais.
Mais tu fais bien de le
moi,
défendre.
Moi, c'est un film qui m'a bouleversé.
Parce qu'il y a de la chorégraphie incroyable aussi.
Ouais, il est incroyablement chorégraphié. Et puis, il y a un propos aussi un peu politique, un peu social derrière que j'ai trouvé intéressant.
Et Snowpiercer, bien sûr. Et
Snowpiercer, bien sûr, ouais, de Park Chan-wook.
John
Bong-woo.
C'est la Palme d'Or, ouais, qui a eu les. Le réalisateur qui a la Palme d'Or.
Oui,
et
ça,
vu que j'ai encore un peu de micro, je peux vous parler d'Under the Skin de Jonathan Glazer, un film formidable, génial, un film expérimental avec Scarlett Johansson qui pompe, aspire le désir des hommes, une alien qui est venue voler le désir des hommes dans l'Écosse où il pleut tout le temps, c'est génial.
Voilà, et écoutez, on va conclure sur Under the Skin. Et moi, je suis au regret de ne pas avoir un film de Terrence Malick sur ce top. Mais ce n'est pas grave, on a essayé d'être conciliant avec tout le monde et de faire un maximum de plaisir. En tout cas, c'est la fin de cette émission Témoin Oculaire. J'espère qu'il y a. Guylain veut ajouter un petit mot avant qu'on conclue.
Oui, moi, j'ai juste trois ovnis à promulguer, on va dire. C'est
Mais
Six
vite,
hein. Underground de Michael Bay,
ouais.
Gemini Man de Ang Lee, bien sûr. Et je voudrais faire un petit bonus pour Amoureux, qui est donc un long métrage d'un ami qui s'appelle Alexandre Logier et qui sera diffusé donc le 21 janvier à 13h à Paris au cinéma Saint-André-des-Arts, donc 30 rue Saint-André-des-Arts, 75006 Paris. Voilà, en présence de l'actrice Jessica Herrero et du comédien Thibaut Vanek qui joue dans Plus belle la vie notamment.
D'accord, Daniel, un dernier mot.
Ouais, Anaïs, Liam, Maxime, je vous embrasse. Viva la Familia.
Viva la Familia, merci à tous. On vous souhaite une excellente année 2020, une superbe décennie. Allez au cinéma, continuez à regarder des films. Et puis peut-être, on espère, parmi vous, qu'il y en a qui en feront encore. Dis encore un mot.
David O. Russell, qui a fait des films formidables avec Jennifer Lawrence, voilà, Joy. Allez voir, c'est un super
voilà,
réel
y
de
y avait
décennie.
Il y a énormément de films.
Et regardez Les Rois du Désert,
dit.
C'est une tuerie.
Ouais,
aussi.
Bon, les gars, on va pas faire la blague de chacun rajoute son film. On va conclure cette émission parce que on remercie en tout cas Radio Galère et monsieur Sidi Diallo.
Merci
qui
Sidi,
est au platine et qui nous a reçu royalement encore ce soir. On se quitte avec un morceau de musique. Tree is the Magic Number de Blind Melon, qui est toujours un film qui est apparu dans Ready Player One parce que c'est l'ABO du siècle, en tout cas de la décennie.
Et c'est le film du siècle.
Voire de la décennie.
On se retrouve le mois prochain au mois de février pour une nouvelle émission de Témoins Oculaires. On se tient au courant, retrouvez vite, prenez soin de vous, passez une excellente soirée, à très bientôt, merci. Three, oh, it's the magic number. Yeah it is, it's the magic number. Somewhere in there.
mystic trinity, you get three. It's the magic number. In the past, in the present, the future, faith and hope and charity. In the heart, in the brain, in the body, I'll give you three. It's a magic number. It takes three legs to make a tripod or to make a table stand. And it takes three wheels to make a vehicle called the tricycle. And every triangle has three corners. Every triangle has three sides. No more, no less. You won't have to guess. Now it's three. They did. There were three in the family. Oh, that's a magic number. 3, 6, 9. 12, 15, 18. 21, 24, 27, 30. 3, 6, 9.
Multiply that was from 3 times 10.
3 times 10 is 30. 3 times 9 is 27. 3 times 8 is 24. 3 times 7 is 21. 3 times 6 is 18. 3 times 5 is 15. 3 times 4 is 12. 3 times 3 is 9. 3 times 2 is 6. And 3 times 1 is 3 or 4.
Now dig the pattern once more.